On continue l'étude sur le Saint-Esprit. Ce soir, on arrive presque à la fin de toute l'étude, puis le sujet qu'on voit ce soir, ça peut-il arriver qu'une personne soit privée du Saint-Esprit, qu'il soit empêché de recevoir le Saint-Esprit? Y a-t-il dans la parole de Dieu des péchés impardonnables qui peut priver les gens de recevoir le Saint-Esprit et le salut en Jésus-Christ? Quand on parle de péchés impardonnables ou être dans une condition qu'ils ne recevront plus la grâce de Dieu, il n'y a plus moyen de sortir de là, qui sont dans une voie de non-retour. Est-ce que la Bible parle qu'il y a des gens qui sont rendus à ce niveau-là? Pourtant, dans la parole de Dieu, dans Jean 3,16, on voit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était la promesse de Dieu, là. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir sur la croix afin que n'importe qui, quiconque croit, puisse être pardonné de ses péchés et avoir la vie éternelle, pouvoir recevoir le Saint-Esprit. La promesse est pour tout le monde. Dieu il aime tout le monde, puis il veut que tout le monde puisse être sauvé. Mais comment que ça se fait qu'il va y avoir des gens qui ne le sauront pas? Quand Dieu veut déjà sauver tout le monde, il veut déjà y envoyer Jésus pour sauver tout le monde, afin que n'importe qui croit soit sauvé. Comment se fait-il que des gens qui ne seront pas sauvés?
Premièrement, parce qu'ils ne veulent pas non plus.
Ça, c'est la première chose. C'est pas nécessairement parce qu'ils ne veulent pas, mais la première choix, c'est parce qu'ils y croient pas. C'est un très gros point. Il y a des personnes qui sont privées du Saint-Esprit à cause de leur incrédulité. Parce que s'ils croiraient à ce que Dieu a promis, ils le recevraient. Ce qui les empêche de le recevoir, c'est à cause qu'ils ne veulent pas croire. Pas qu'ils ne veulent pas croire, qu'ils ne croient pas. Quand quelqu'un ne croit pas, ça ne marche pas. Puis si quelqu'un croit, mais qu'il ne veut pas, ça revient au même résultat. C'est quand même un acte d'incrédulité, parce que tu peux croire en Jésus, mais pas vouloir le suivre. Ça, c'est une autre chose. Mais dans Jean 14,16, ça nous dit, c'est Jésus qui parle, « Et moi, je prierai le Père, puis vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, puis ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, puis il sera en vous. » Dans ce verset-là, Jésus il a annoncé à ses disciples, « Je vais prier pour vous, vous allez recevoir le Saint-Esprit. » Mais c'est un Saint-Esprit que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi qu'ils ne peuvent pas le recevoir? Jésus dit, « parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Les gens ne le connaissent pas, le Saint-Esprit. Pratiquement la majorité du monde sur la planète ne connaît pas le Saint-Esprit, puis en ont jamais entendu parler, puis ils l'ont pas vu. Ça veut pas dire que le Saint-Esprit a pas agi en eux, c'est qu'eux autres sont pas conscients que le Saint-Esprit est là. Comment est-ce que ça peut arriver que quelqu'un est pas conscient que l'Esprit est là, puis que le Saint-Esprit agit sur eux? Mais les gens, ils entendent parler de Jésus. Là, le Saint-Esprit se sert des paroles qu'ils entendent à travers de ce personnage-là. Ils entendent parler de Jésus, fait que le Saint-Esprit se sert de ces mots-là. Il touche son cœur. Là, le gars, il dit, « Hey, ça me dérange d'entendre parler de Jésus. Je me sens plus bien d'entendre parler de Jésus. » Mais ils ne savent pas que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir dans eux pour essayer de les convaincre. Mais quand Dieu veut te convaincre, il veut t'amener à changer de vie. Il veut pas que tu restes comme tu étais. Fait que les gens, quand ils commencent à se sentir dérangés, ils rejettent ça. Ils disent, « Moi, parle-moi plus de Jésus. Ça me dérange. » Fait que là, ils sont en train de tasser le Saint-Esprit. Ils s'en rendent même pas compte. Ils ont même pas vu que c'était le Saint-Esprit qui est en train d'agir. Puis ils sont pas rendus compte que le Saint-Esprit était là. Puis parce qu'ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut pas rester le monde tranquille. L'Esprit de Dieu cherche à convaincre. Il veut convaincre. Fait que les gens commencent à être convaincus, puis là, ils arrêtent de me parler de Jésus, ça me dérange. Ils rejettent le Saint-Esprit, parce qu'ils ne le voient pas. La question du début, comment ça se fait que des gens, quand Dieu a promis qu'il voulait sauver tout le monde, puis il voulait donner le Saint-Esprit à tout le monde, comment ça se fait qu'il y en a qui ne l'auront pas? C'est pas à cause que Dieu veut pas. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est que les gens résistent. Parce que quand les chrétiens rouvrent la bouche pour parler de Jésus, le Saint-Esprit sert des paroles, puis il touche les cœurs, puis là, le monde s'endurcisse. Il résiste. Là, les chrétiens vont dire aux gens, « Accepte Jésus comme ton sauveur. Tu vas pouvoir être pardonné de tes péchés. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Ta vie va changer. Puis Dieu va te bénir. » Là, le monde, oh, « non, parle-moi pas de ta religion. Viens pas m'achaler. » Là, ils mettent des oppositions, puis ils bloquent le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'ils le reçoivent pas. Parce que s'ils penseraient le contraire, puis ils se disent, « Oh oui, ça fait longtemps que je cherche, puis j'aimerais savoir comment faire pour être sauvé. J'aimerais ça être sûr d'avoir la vie éternelle. » Puis là, la personne, elle acceptera Jésus, elle sera pardonnée, puis sa vie commencera à changer. La preuve, notre vie, elle a changé quand on a reçu le Saint-Esprit. Jean 8, 24, Jésus a dit à des personnes, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. » C'est simple, les gens ne croyaient pas qui était Jésus. Puis Jésus leur a dit, « Si vous ne croyez pas qui que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. » Pourtant, Jésus voulait les sauver, puis il voulait mourir sur la croix pour les sauver. Il a essayé de les convaincre en faisant plein de miracles, puis en prêchant la vérité. Puis les gens disent, non, on le crucifie à la place. Il voulait s'en débarrasser. Puis Jésus dit, vous allez mourir dans vos péchés si vous ne croyez pas qu'est-ce que je suis. Mais c'est un défaut, grave défaut, qui va faire que les gens vont aller dans l'étang de feu. Oui, ça va coûter cher. Y a-t-il d'autres choses à part que l'incrédulité qui peut faire que ça nous bloque l'accès au Saint-Esprit, que ça peut nous priver du Saint-Esprit? Un des points que je vais vous parler avant de parler de reniement, je vais vous parler du blasphème. De blasphémer le Saint-Esprit. Quand c'est un blasphème, là, c'est un outrage. C'est quelque chose qu'on dit au Saint-Esprit qui est une insulte. On a insulté le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont insulté le Saint-Esprit dans le temps de Jésus. Puis Jésus s'est servi de cette phrase, de cet exemple-là, de ce qu'il venait d'entendre, là. Puis il a enseigné ce que je vais vous dire là. Puis que il dit, celui qui blasphème contre Jésus, là, ça se pardonne. Mais s'il y en a quelqu'un qui blasphème contre le Saint-Esprit, il est coupable d'un péché éternel, puis il ne pourra pas jamais être pardonné de ses péchés. Jésus a dit ça dans Matthieu 12, 31. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans ce passage-là, dans Matthieu, ça nous dit, s'il y a quelqu'un qui parle contre le Saint-Esprit. Là, je vais vous lire le même passage, mais il est écrit dans Marc, avec quelques nuances dans la phrase qui pour compléter ce qu'on vient de lire. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parlait ainsi parce qu'il disait, les gens disaient, il est possédé d'un esprit impur. Les gens regardaient Jésus, puis disaient de Jésus qu'il était possédé d'un esprit impur. Il est en train de blasphémer l'Esprit-Saint, parce que Jésus, c'était l'Esprit-Saint qu'il y avait en lui. Puis les gens voulait se moquer de Jésus, puis il disait que l'esprit qui est en Jésus, c'est un esprit impur. Mais ça, c'est un blasphème. Puis Jésus, dans ses enseignements-là, en se servant de ça, il a dit, tu peux blasphémer les hommes, ça se pardonne. Mais si tu blasphèmes le Saint-Esprit, tu es coupable d'un péché éternel. Tu ne pourras jamais être pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. C'est qui se trouve à convaincre les gens de pécher? C'est grâce à qui qu'on peut arriver à comprendre le chemin de la vérité puis pouvoir s'engager à suivre Jésus? C'est grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là puis que les gens vont aller le traiter de démon. C'est grave. Les points que ça s'est vu le plus, c'est que le monde ont été amenés à blasphémer contre le Saint-Esprit, là. C'est arrivé de même comme ça qu'il y en a qui l'ont fait parce qu'ils voulaient se moquer de Jésus, là, puis là, il n'y avait rien à redire. Puis là, il dit, c'est un démon qui est là. Ça, c'est arrivé. Les autres occasions, c'est sous la persécution. Encore dernièrement, j'ai lu une affaire cette semaine, un chrétien qui vit dans un pays musulman, puis les musulmans, ils ont tranché la tête, ils l'ont décapité, puis lui, il a refusé de renier Jésus. Les musulmans l'ont forcé à renier Jésus, à cracher le nom de Jésus, puis à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils ont essayé de l'amener à... On va voir un passage de ça, justement, un peu plus loin dans Hébreux, qui parle dans la même idée que ça. Ils ont essayé de le pousser, à le forcer à dire des insultes sur Dieu pour qu'il blasphème. Lui, il a refusé, puis ils l'ont tué. Ce que je veux en venir, c'est qu'un chrétien, il faut qu'il veille sur ce qu'il dit et ce qu'il fait. Si jamais un jour, ça l'arriverait qu'il y aurait des persécutions ici au Québec, ou s'il y a d'autres chrétiens qui entendent ce message-là, puis qui vivent dans des pays difficiles, ou s'il y a des gens qui sont persécutés à cause de leur foi, faut pas qu'ils acceptent de blasphémer, de renier Jésus, puis de blasphémer contre le Saint-Esprit. Parce que c'est arrivé dans le temps des apôtres où ce qu'ils montraient des chrétiens qui sont faits dévorer par les lions là, à Rome, puis toutes sortes de persécutions contre les chrétiens parce qu'ils ont été accusés aussi d'avoir mis le feu à Rome, les chrétiens. Puis là, ils faisaient tuer les chrétiens, puis ils les forçaient à blasphémer. Puis Paul, il faisait la même chose avant de se convertir. Fait que le point est que même si par la force quelqu'un nous obligerait à essayer de blasphémer, faut pas faire ça. Faut rester ferme dans la foi, puis refuser de renier Jésus, puis refuser de blasphémer. Parce que ça fait partie du combat de certains chrétiens, ils vont avoir à passer par là. Des persécutions, peut-être que nous autres ici au Québec, on n'en vit pas encore, mais il y a d'autres pays qui en vivent des persécutions. Puis ils payent de leur vie présentement pour garder la foi, puis pour renier Jésus. Il y a encore d'autres points où ce que la parole de Dieu nous parle de personnes qui peuvent être chrétiennes, avoir été sauvées, puis qui se sont endurcies spirituellement parlant, ils se sont refroidis, puis qui sont rendus morts devant Dieu. Ça existe. Ils sont comme séparés d'avec Dieu, mais Dieu les encourage, les exhorte à revenir, parce qu'ils n'ont pas encore traverser la voie de non-retour. Je vais vous lire un passage dans l'Apocalypse qui parle de cela. C'est une des églises que dans l'Apocalypse, il y a 7 lettres à 7 églises, puis une des lettres à l'église, c'est Dieu qui est en train de parler, il dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Bon, ça, c'est un chrétien, ça, là. Dans une église. Il passait pour être une église vivante, puis c'est une église morte. Puis là, Dieu, il l'encourage, il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc, c'est ça, oublié. Dieu, il dit quoi faire, là. Rappelle-toi donc comment t'as reçu et entendu, garde et repens-toi. Si tu veilles pas, je viendrai comme un voleur, tu sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles pourra entendre ce que l'Esprit dit aux églises. On voit dans ce passage-là que Dieu donne sévère avertissement à un chrétien qui était dans cette église-là, puis il passait pour être une église vivante, puis c'était une église morte. Puis les œuvres qu'il faisait, c'était des œuvres de péché, puis il était plus conforme à la parole de Dieu. Puis il était tellement rendu loin du chemin de Dieu qu'il était rendu mort spirituellement parlant. Il n'était pas mort physiquement, il était mort spirituellement parlant. Quand tu viens à Jésus, là, tu reçois le Saint-Esprit, tu es rendu vivant. L'Esprit de Dieu te ressuscite. Puis là, il te donne la vie. Puis là, tu as la vie éternelle à cause que le Saint-Esprit est en toi. Puis si l'Esprit qui habite en toi t'anime, lorsque tu mourras, bien, il va te redonner la vie à ton corps mortel à cause par son Esprit qui est en toi. Mais à ce moment ici, on parle d'une personne qui est morte spirituellement, qui était chrétienne, mais qui est morte spirituellement, mais il n'avait pas traversé la voie de non-retour. C'est qu'il est encore invité par Dieu à revenir. Dieu, il dit, reviens, là. Rappelle-toi comment je t'ai reçu la parole de Dieu. Comment je t'ai reçu puis entendu. Puis là, il dit, garde ça, puis repens-toi. Reviens à la parole de Dieu comme tu l'as entendu au début. Là, lui, dans leur cas, s'était rendu flayé, il suivait plus la parole de Dieu, puis que là, ça nous dit qu'il vivait dans le péché. Ça disait que leurs œuvres n'étaient pas parfaites, puis ça disait qu'ils souillaient leurs vêtements. Puis là, Dieu leur donne une condition, pas une condition, il leur donne une promesse, et dit, si vous avez la victoire, là, vous m'écoutez autrement dit, puis vous revenez à moi, il dit, je vais vous donner un vêtement blanc, puis j'effacerai pas votre nom du livre de vie. C'est ça que ça dit dans ce texte-là. Voyez-vous, ce qu'on veut en venir, c'est que il y a une voie de non-retour que des gens, même s'ils s'égarent du Seigneur, il y a toujours la possibilité de revenir au Seigneur. En autant qu'on l'écoute la parole, puis qu'on revient, qu'on l'applique, puis on demande pardon à Dieu, puis qu'on confesse, qu'on croit que c'est Jésus-Christ seul qui nous sauve, c'est ça le plan du salut. On croit que Jésus est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis on l'a accepté, puis on s'est engagé à le suivre, c'est ça le chemin. On reste dans... C'est ça qu'on a entendu, puis c'est ça qu'on garde. Mais il faut rester dans ce chemin-là. Si on commence à vivre à l'Église qui a plus besoin de ça, puis on se pense bien bon, puis on vit d'autres choses, puis on n'est plus dans la vérité, dans le chemin de Dieu, il faut revenir à la base. Puis Dieu nous donne toujours une ouverture pour revenir à la base. Il ne faut pas oublier ça. Ça, on va le voir un peu plus loin la semaine prochaine, un peu plus en profondeur. Comment revenir au Seigneur, puis comment être renouvelé dans la présence du Seigneur. Mais ça arrive que des gens qui traversent la voie de non-retour par quand ils s'égarent. Il y a une ligne de non-retour qui ne doit pas être franchie par ceux qui veulent être sauvés. Dans 1 Jean 5,16. Dans l'épître de Jean, ça nous dit « Si quelqu'un voit un frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui mène point à la mort. » Il y a un péché qui mène à la mort, puis c'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. On voit dans ce passage-là encore qu'il y a une possibilité qu'un chrétien vive dans le péché, qu'un chrétien, à cause de sa vie de péché, il s'en va à la mort spirituelle. Ça dit que si un frère voit un frère s'en aller dans la voie de péché, dans la voie de la mort spirituelle, mais c'est pas le péché définitif de non-retour, le péché que le un seul péché qui est dit de pas prier, là, parce que ça sert à rien. S'il a transgressé ce péché-là, il a plus rien à faire. Mais s'il a pas transgressé ce péché-là, tu peux prier pour ce frère, puis Dieu va redonner la vie à ce frère. Ça veut dire que ce frère-là, qui vivait dans le péché, était rendu mort, spirituellement parlant. Mais il n'était pas encore une mort définitive. C'était pas encore final. Il y avait encore une possibilité de revenir. Il y a un seul péché qui dit qu'on ne doit pas prier, puis d'ici il a transgressé ce péché-là, il n'y a rien à faire. On va comprendre en lisant le prochain passage de quel péché que c'est en train de parler. On en a parlé un peu avec le blasphème du Saint-Esprit, puis dans le contexte où il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi, puis qui en sont arrivés à renier Jésus, à cracher sur le sang de Jésus, puis à blasphémer le Saint-Esprit. Là, s'ils se rendent jusqu'à là, il n'y a plus rien à faire, ils ne peuvent pas être renouvelés puis ramenés à la repentance. C'est ce que ça dit dans Hébreux, chapitre 6, le verset 4. Ça nous parle que ceux qui ont été jusqu'à là, ils ne peuvent plus revenir à repentance. Car il est impossible pour ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont pris part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu puis les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, il est impossible qu'ils soient encore renouvelés puis ramenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu puis l'exposent à la honte. Là, il nous parle que lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée. Elle participe à la bénédiction de Dieu, mais si elle produit des épines puis des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, on finit par y mettre le feu. Dans ce passage-là, ça continue un peu l'idée de l'épître de Jean, là, de pas prier s'il a été dans la voie de non-retour. Il y a un péché qui est grave, qu'il ne doit pas faire, c'est de renier le Seigneur, puis de blasphémer contre le Saint-Esprit. Il y a deux passages qui en parlent dans Hébreux de cette idée-là. Ça, le premier passage, je viens de vous le lire. Il est impossible que celui qui a tout goûté à tout, puis qui a goûté au Saint-Esprit, il a goûté à la parole de Dieu, il a goûté à la puissance de Dieu, il a été éclairé, il a compris c'est quoi le salut, puis il a marché par la foi, mais qui sont tombés. Puis le mot tombé, là, c'est dans le sens, ils ont tout abandonné, puis ils se sont débarrassés de tout ça, puis ils ont décidé, moi, je ne peux rien savoir de ça, puis je renie ça, puis là, ça y va jusqu'au blasphème, puis là, il méprisait le Fils de Dieu, puis il crachait sur le Fils de Dieu, puis c'était ça qui était le reniement dans ce temps-là, puis qui était forcé à le faire par la force, de cracher sur Jésus, puis d'y faire honte. Il y a un autre passage dans Hébreux qui dit exactement la même idée, mais exprimé dans d'autres mots. Ça, on vient de lire Hébreux 6. Dans Hébreux 10, il dit « Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou trois témoins. » Il dit « De quel pire châtiment, pensez-vous, sera-je digne, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. » Dans ce passage-là, c'est en train de nous dire en co-complété, quand ils sont tombés, ils ont non seulement qu'ils ont abandonné la foi, mais ils ont foulé aux pieds Jésus en crachant « Jésus, je peux rien savoir », puis ils crachent dessus. Puis peu importe que tu le fasses volontairement ou sous la force, faut pas faire ça. Ils ont foulé aux pieds Jésus, ils ont craché sur le sang de Jésus, qui était le sang de l'Alliance, c'est ça qui les forçait à blasphémer, en crachant le sang de Jésus. Puis, ça dit qu'ils ont outragé l'Esprit de la grâce. Ils les amenaient à blasphémer. Puis, c'est des gens qui étaient chrétiens, ceux-là, parce que ça nous dit qu'ils ont profané le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié. Ça veut dire que ça parle à du monde sanctifié, mais qui ont été amenés à blasphémer, à renier, à cracher là-dessus, puis à outrager le Saint-Esprit. Mais s'il y a des gens qui outragent le Saint-Esprit comme cela, en l'abandonnant, en le reniant, que ce soit volontairement ou sous la force, ils sont perdus puis ils ne peuvent plus revenir. Ils sont rendus dans une position devant Dieu où ils ne peuvent pas. C'est impossible qu'ils soient renouvelés puis ramenés à leur repentance. Ils ont atteint la voie de non-retour. Pourquoi qu'on dit ça, c'est tous ces enseignements-là? C'est dans le but qu'on prenne garde parce qu'il n'y a pas un seul chrétien qui est exempt de cela. Ça peut arriver demain matin, puis vous allez le voir dans le prochain verset, dans le dernier verset que je vais vous amener. Ça peut arriver demain matin que le gouvernement mondial s'installe, puis qu'il dit « plus personne n'a le droit de faire de religion, plus personne n'aura le droit d'invoquer un Dieu ». Puis que là, ils interdisent aux gens d'être chrétiens. Puis que là, le monde commence à dénoncer les chrétiens. Ils vont dénoncer aussi les musulmans. Ils vont dénoncer les catholiques qui continuent à pratiquer leur foi. Puis qu'ils vont se faire mettre en prison. Ou ils vont se faire tuer par la menace. Ou il va leur être offert quelque chose qui est annoncé qui va arriver. Puis on pourra pas passer à côté de cela. Ça va arriver quand, je le sais pas, mais c'est à la veille d'arriver. Le recevoir la marque de la bête, qui équivaut encore la même chose que si on aurait outragé ou blasphémé contre le Saint-Esprit, parce qu'il n'y aura pas de pardon pour celui qui reçoit la marque de la bête. On le voit ça dans l'Apocalypse au chapitre 14, le verset 9. C'est un ange qui crie du ciel puis annonce un troisième ange qui suivit en disant: si quelqu'un adore la bête et son image, la bête, là, ça va être le système politique qui va être en place du gouvernement mondial, puis le système religieux qui va appuyer le système politique, mais qui fait partie d'un système politique qui, gouvernement mondial, qui va régner sur la terre. Il est déjà en train de s'installer, le gouvernement mondial. Là, présentement, il y en a comme deux. Il y a le G8 puis il y a le G20. C'est comme un gouvernement à 20 pays qui sont ensemble, mais formé d'un G7 premièrement. Puis la Bible parlait dans l'Apocalypse de la bête à 7 têtes et 10 cornes. Puis qu'un huitième roi qui viendra régner sur la bête 7. Ça, c'est le G8. C'est déjà installé. Puis c'est écrit dans l'Apocalypse au chapitre 13 qu'il y a une bête qui va s'élever, qui est formée de 8 gouvernements, est déjà là. Puis l'autre bête, qui est 7 têtes plus le 8, plus les 10 cornes, qui sont 10 pays, qui donnent une puissance à la bête, ça en fait 18, mais il y a un G20 présentement. Fait que les choses sont en train de se mettre en place comme que c'est annoncé, puis ils vont faire, ça va venir un jour, puis ça peut venir pas mal plus vite. C'était impossible de se faire, voilà, 100 ans, cette prophétie-là. Puis aujourd'hui, tout est installé pour que ça puisse se faire. Un contrôle mondial financier. Que tout le monde va recevoir une marque dans la main droite ou sur le front, puis que personne ne pourra acheter ni vendre sans voir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Un contrôle mondial qui va se faire sur le monde entier, puis bien sûr, les chrétiens ne doivent pas adhérer à ce régime-là, à ce système-là. Comment ça va se faire? Je ne sais pas. Il y en a qui ont inventé toutes sortes de théories, mais il y a une chose qui est sûre. La carte à puce, c'est des précurseurs, puis ça s'en vient. Ça s'installe, l'Internet, le réseau de la toile, il est branché à travers quasiment toute la planète, puis les transactions peuvent être faites à travers la planète avec notre carte à puce, puis on est juste au bord de se faire puncher. Puis d'après mon humble opinion, je dis pas que ça va être ça à 100%, d'après moi, il va y avoir un crash mondial financier qui va avoir lieu, puis que tout le système économique qu'on vit présentement, la bourse, puis les pays qui s'endettent en empruntant à d'autres pays, puis là, les dettes se multiplient dans les pays, ça va tomber à terre tout ça. Il y a une série de pays qui vont faire des faillites, puis qui vont entraîner les autres pays à faire faillite. L'ensemble des pays va tomber dans la faillite, puis là, le gouvernement mondial va installer le système du contrôle avec la marque, puis tu n'auras pas le choix d'avoir cette marque-là pour pouvoir manger, pour pouvoir boire, pour pouvoir travailler, pour pouvoir payer ton Internet, payer tes comptes. Puis tu n'auras pas le choix de faire partie du système, puis que ça, c'est un système qui est automatique, ça va s'accomplir, c'est annoncé dans la parole de Dieu. Dieu appelle ça l'apogée de la rébellion contre lui, c'est une bête, puis le celui qui va être en tête de cela, ça va être l'Antéchrist, le celui que le Seigneur Jésus-Christ va détruire lors de son retour. Jésus est à la veille de revenir, puis c'est dans pas long. Puis quand Jésus-Christ va revenir, ça va être pour détruire l'Antéchrist, puis tout son système de l'Empire qui va régner sur la terre, puis avec tout le système de contrôle, puis toutes ses armées, ça va tout être détruit par le Seigneur Jésus-Christ. Puis cet empire-là va faire la guerre aux chrétiens. Parce que les chrétiens ne voudront pas adhérer à son système, puis ils vont faire mettre à mort les chrétiens. C'est écrit dans l'Apocalypse qu'il va leur permettre de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Puis il y en a qu'un autre passage qui dit que celui qui est destiné à la captivité va aller en captivité, puis celui qui est destiné à l'épée va aller à l'épée. Ça veut dire que des chrétiens...
Que ça va durer un temps qu'avant Jésus vienne nous chercher. On peut avoir des terres puis souper par nos propres animaux. Puis,
ça dit que ça va être sur la terre, mais ça dit pas s'il y a des pays épargnés. Ouais. Ça, on ne le sait pas. Ouais. Ça se peut. Mais comme on le sait, ça se peut que c'est sûr qu'ils vont avoir encore des chrétiens vivants. Mais comment il y a des pays que ça va être des ravages complets, que des persécutions complètes, puis il y a des pays qui vont mettre le monde en prison, parce que ça dit ceux qui sont destinés à la captivité vont aller en captivité, fait qu'il va y avoir des pays que les gens vont aller en prison, puis il y a d'autres pays qui vont se mettre à mort. Fait que là, j'ai parlé du système qui s'en vient, de la marque de la bête, mais je vais parler d'un avertissement que Dieu a donné de ne pas recevoir la marque de la bête, puis que si quelqu'un reçoit cette marque-là, il est fait pour l'éternité, il n'y a pas de pardon. Puis, je vais vous lire le passage. Dieu dit, si quelqu'un y adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front, sur sa main, ça c'est la marque pour acheter puis pour vendre. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas acheter ni vendre. Mais si quelqu'un la reçoit, cette marque-là, peu importe qui ce que c'est, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu puis dans le soufre devant les saints anges et devant l'agneau, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Là, l'autre phrase qui est là est très importante. C'est écrit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Fait que là, on voit que cet avertissement-là s'adresse à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça s'adresse aux chrétiens. Un avertissement de ne pas la recevoir, parce que si quelqu'un la reçoit, c'est le feu éternel. Il n'y a pas de pardon. Le début de l'étude, c'était « Peut-on être privé du Saint-Esprit? » Y a-tu une manière que les gens peuvent ne pas avoir, de ne pas rester dans le Saint-Esprit? Oui, il y en a. Là, je vous ai expliqué qu'il y en a par leur incrédulité. S'ils ne croient pas, ils ne le recevront pas. Il y en a d'autres, ils ne peuvent pas le recevoir parce qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit.
Ils l'ont renié.
Puis ils l'ont craché dessus, puis tout ça, puis ils l'ont blasphémé par la force, par la persécution. Puis il y en a d'autres qui vont avoir reçu la marque de la bête, qui vont être rejetés, puis il n'y aura pas de pardon, même si c'était des gens qui étaient chrétiens. Cet avertissement-là, ça s'adressait à des chrétiens. Frères et sœurs, ce que je vous dis là, peut-être qu'on dit, oh, ça peut arriver dans 50 ans, puis on ne le sait pas, puis ça ne nous arrivera pas, j'ai pas besoin de penser à ça. Comme ça peut arriver plus vite qu'on pense, ça pourrait être dans 10 ans, puis qu'on soit bien encore en santé, puis qu'on soit encore ici, sauf que moi, je vais avoir 60 cucs, puis il y en a qui vont être 70, puis il y en a, comme toi, tu vas avoir quoi?
35.
Fait qu'on va être dans, il y en a qui vont être dans la fleur de l'âge, puis il y en a d'autres qui vont être âgés, mais ils vont avoir à vivre ces choses-là. Puis ils vont avoir à résister. À pas se laisser aller. Comme les premiers chrétiens, ils acceptaient pas de renier Jésus, ils aimaient mieux se faire bouffer par les lions dans l'arène que de renier. Parce que s'ils reniaient, ils pouvaient sortir de l'arène sans être dévorés par un lion. Ils acceptaient pas, puis ils acceptaient. Moi, j'aime Jésus qui est mort pour moi, puis pour lui, je vis et je meurs. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour suivre Jésus. On a-tu cette attitude-là, comme les premiers chrétiens? Il faut l'avoir. Puis il faut se fortifier en Seigneur. Il faut l'aller, notre Bible, prier, puis garder le contact avec Dieu, rester dans la foi, afin qu'on n'arrive pas à renier Jésus. On va prier ensemble. Père Seigneur, je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Je veux te remercier, Seigneur, premièrement pour toutes ces paroles qui sont écrites, des versets de la Bible qui sont là, Seigneur. Ça fait partie de ta parole, puis c'est quand même grave que ce qui est écrit là. Pour moi, Seigneur, ainsi que pour mes frères et sœurs, je te demande de nous garder. Nous garder dans la foi, Seigneur, d'augmenter notre foi, puis d'augmenter notre désir de lire la parole de Dieu, de nous donner un cœur à vouloir te suivre et te servir jusqu'à la fin, Seigneur. Pas question de se rebeller contre toi, pas question de te renier puis de blasphémer. Nous le savons, Seigneur, que c'est trop grave. Donne-nous, Seigneur, d'être puissamment fortifié par ton esprit et qu'on persévère dans la foi jusqu'à la fin. Je te remercie, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.